France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Et rebonjour, Tahar Benjelloun.
Oui, rebonjour.
Écrivain, poète, prix Goncourt en 1987 pour La Nuit Sacrée. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les matins d'été de France Culture. Vous publiez à la fin de cet été qui aura été marqué par de nouveaux attentats sanglants en France et pas seulement en France. Le terrorisme expliqué à nos enfants. C'est aux éditions du Seuil, un dialogue selon une formule qu'on connaît bien désormais entre votre fille et vous sur les grandes questions qui tournent autour du terrorisme et qui taraudent évidemment tout le monde, et pas uniquement les enfants. La peur, les mécanismes d'endoctrinement, les attentats suicides, la violence extrême et la religion, un travail dont vous dites, Tahar Benjelloun, qu'il vous a coûté, ou en tout cas qu'il a été long et difficile.
Oui, j'ai commencé ce livre le lendemain du 15 novembre et je l'ai terminé fin juin, quoi. Mais j'ai dû énormément travailler sur le plan de l'histoire et surtout réviser toutes les informations que j'y apporte, le faire relire par des historiens, le faire relire par des enfants pour que le livre pédagogiquement soit impeccable et surtout juste et qui apprennent quelque chose à ceux qui veulent savoir.
Ouais, le rapport à l'histoire, c'est parce que vous faites la différence et vous y tenez beaucoup, vous y revenez assez souvent au fil de ces pages, la différence entre le terrorisme et la résistance, par exemple.
Absolument, bien sûr, parce que de toute façon, quand on est occupé, comme l'a été la France, ou comme l'est aujourd'hui le territoire palestinien, ceux qui résistent sont souvent décrits par ceux en face de terroristes, alors qu'ils résistent parce que il y a une résistance pour récupérer leur liberté, leur indépendance et leur terre. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, avec des gens qui sont sans visage, et qui sont disséminés un peu partout et qui frappent d'une manière, j'aime pas le mot aveugle, mais d'une manière terrible, des innocents qui ne sont pas en guerre, qui ne sont pas des soldats, ouais. Qui n'occupent aucun territoire ni rien. Donc c'est des innocents qui sont la proie et les victimes principales du terrorisme.
Ouais, il y a des terroristes qu'on peut considérer comme résistants au fil de l'histoire, mais pas tous évidemment. Mais
pas toujours, ouais, pas toujours. Ouais. Il y a des cas très très particuliers. Je donne l'exemple quand même important. À l'époque où la Palestine était sous empire britannique, où des Juifs ont dû résister, ont dû se battre contre les Anglais. Alors les Anglais les appelaient les terroristes, et aujourd'hui les Israéliens appellent les Palestiniens les terroristes. Donc vous voyez un peu la terminologie, ouais, parfois varie d'une époque à une autre.
Alors évidemment la religion est questionnée au fil de ces pages, le terrorisme expliqué à nos enfants, tout ce qui touche à l'islam, écrivez-vous, a pris un tour tragique.
Ben, depuis pratiquement la révolution iranienne.
Oui, c'est ça, c'est indépendant de la vague d'attentats qu'on connaît.
Oui,
en ce
mais
moment.
L'islam a envahi la scène politique avec l'ayatollah Khomeini qui a légitimé le fait que l'islam devienne une idéologie, une constitution de certains États. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu des dérives, il y a eu un détournement, etc. Mais aujourd'hui, l'islam c'est une espèce de drapeau qu'ils agitent, mais ce drapeau est fait d'ignorance, est fait de barbarie et de violence, qui fait que ça n'a rien à voir avec une religion qui est d'ailleurs l'islam, qui est la continuité logique du judaïsme et du christianisme, ouais, puisque nous retrouvons certaines valeurs des unes et des autres dans l'islam, et que l'islam reconnaît et célèbre et respecte les autres religions et les autres prophètes.
L'islam est devenu, écrivez-vous, Tahar Benjelloun, depuis une trentaine d'années, donc un problème majeur de la vie politique et sociale en France et en Europe. Le problème, c'est cette lecture littérale aussi du Coran qu'on fait depuis effectivement 1979. Mais...
Oui, ça a été dès le départ. C'est-à-dire que la manière de lire le Coran, soit on le lit d'une manière intelligente, métaphorique et symbolique, et on comprend qu'il y a des valeurs qui sont éternelles et d'autres qui sont de circonstances. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec ceux qui utilisent l'islam et qui invoquent l'islam, c'est qu'ils pensent qu'ils sont toujours au 7e siècle, au moment où le prophète luttait contre ceux qui voulaient l'assassiner et qu'il a dû faire des guerres contre des tribus qui voulaient sa mort. Donc, aujourd'hui, personne ne veut assassiner l'islam. Ce sont justement les djihadistes qui assassinent l'islam aujourd'hui. On assassine des innocents qui n'ont strictement rien mais absolument rien à voir avec leur, la lutte que mènent les djihadistes.
Mais alors comment faire pour réinterpréter le Coran, pour arriver à avoir une lecture différente?
Oui, c'est un travail de longue haleine, un travail pédagogique d'abord, commencer absolument dans les écoles à apprendre ce que c'est que les trois religions, leur apprendre de manière objective et rationnelle, et distinguer les détournements de la réalité. Ouais. Et ça, c'est un travail qui doit être fait à l'école, dans les médias aussi, et dans l'environnement dans lequel vivent les enfants, parce que nous ne pouvons pas continuer en France, en tout cas, à considérer que l'islam, ce n'est pas un problème. C'est un problème, posé malheureusement par des individus qui l'utilisent et qui sont souvent pleins d'ignorance, mais qui ont une telle férocité que il faut l'expliquer. Ouais. Et puis, et expliquer aussi une chose qui est totalement irrationnelle et que aucune guerre n'a connue, c'est ceux qui ont décidé d'abandonner leur instinct de vie pour le remplacer par l'instinct de mort. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que dans toutes les guerres, chacun tient à sa peau. La guerre, c'est ça, on est face à face, je veux pas mourir et l'autre ne veut pas mourir non plus. Là, nous avons affaire à des gens qui offrent leur mort, qui offrent leur vie, qui offrent leur corps à une espèce de gourou, parce que c'est comme une secte, et ce gourou, lui, eh bien, il se nourrit de toute cette barbarie.
Revitaliser l'humanisme qu'on trouve dans le Coran, c'est ce que vous nous dites, Tahar Ben Jelloun. À l'inverse, d'autres intellectuels de culte, de culture musulmane, ne sont pas favorables à une réforme de l'islam, on en parle?
On ne peut pas réformer l'islam, parce que c'est très difficile. C'est difficile de toucher les textes qui sont des dogmes. En revanche, le musulman peut se réformer, le musulman peut s'adapter. Moi, quand je leur dis tout simplement, on est dans un pays de droit qui est la France, un pays qui nous a accueillis, qui on peut discuter la manière dont on a été accueillis, mais on est là. Alors, ou bien on s'adapte aux lois de la République, à l'ordre de la République, ou bien on n'est pas heureux dans ce pays et on s'en va. Évidemment, on m'a reproché dans l'appel que j'ai fait dans le monde, la phrase « revenir au pays natal », parce que pour moi, être français, c'est pas uniquement avoir une carte d'identité française, c'est être d'accord avec les valeurs de la République, c'est épouser ces valeurs et les défendre. C'est ça être français, c'est pas uniquement d'avoir un passeport français, c'est être convaincu que ma vie, mon destin, eh bien, il est inscrit dans ces valeurs-là.
Vous décrivez, Tahar Ben Jelloun, un état de solitude vous concernant, la solitude de l'intellectuel de culture musulmane qui doit faire le grand écart entre la liberté de conscience dont il jouit en France et l'appartenance à la nation musulmane qui ne lui permet pas d'exercer cette liberté.
Bah oui, parce que la laïcité est quelque chose qui est très mal vu par toutes les religions et l'islam n'y coupe pas. C'est-à-dire pour eux, souvent laïcité veut dire athéisme, c'est comme ça ce qu'on dit dans certains milieux. Or, la liberté de conscience est essentielle, c'est la reconnaissance de l'individu. Je suis libre de croire ou de ne pas croire, je suis libre d'être athée ou d'être croyant. Mais cela n'est pas admis dans la nation musulmane, dans la mesure où nous faisons partie tous la même maison. Et si nous quittons cette maison, nous sommes des traîtres, des apostats comme ils disent, et dans certains pays, nous sommes passibles de la peine de mort. Or, on ne peut pas, dans un état de droit, accepter cette condamnation terrible du fait qu'on doit tous croire à la même chose et faire les mêmes gestes et les mêmes rituels. C'est pour cela que quand on est dans un pays européen comme la France, eh bien, on doit s'adapter et on doit sortir un petit peu de cette maison, parce que la maison, elle est faite dans un esprit, dans un contexte du 7e siècle. Aujourd'hui, le monde a évolué, les communications ont évolué. On ne doit pas continuer à toujours revenir à 14 siècles auparavant.
Il y a la maison et il y a la famille aussi, Tahar Ben Jelloun. Ah oui. Vous en parlez de la famille musulmane, mais du rôle des mères notamment vis-à-vis des fils.
Alors ça, c'est un autre problème, ouais. Parce que j'ai pas mal étudié un peu l'itinéraire de certains djihadistes, ceux qui sont partis.
Qui ne sont
en
pas
Syrie.
Des fous, hein, dites-vous. Hein.
Non, il faut surtout pas. Il faut arrêter de croire que ce sont des tarés ou des fous. C'est des gens bien déterminés. Évidemment, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, mais il faut pas les. Parce que si on dit qu'ils sont fous, ça veut dire qu'ils sont déresponsabilisés. Ça veut dire que finalement, ces pauvres gens. Non, c'est pas des pauvres gens. C'est des gens qui ont un but déterminé de tuer, de faire le meurtre et d'offrir leur vie à un paradis promis, etc. Donc c'est pas des fous. Et la relation entre les mères et les enfants, malheureusement, on voit combien le garçon reste encore aujourd'hui privilégié dans l'éducation maternelle. Et on voit par exemple que, comme l'a très très bien démontré Germaine Tillion dans un livre remarquable qui s'appelle « Le harem et les cousins » paru en 66 aux éditions du Seuil, qui est un livre qu'il faut absolument relire aujourd'hui, elle démontre les liens de parenté et la manière dont, dans cette Méditerranée, le garçon a toujours été éduqué de manière spéciale pour faire de lui soit un héros, soit une victime. Et là, les mères participent d'une certaine manière, inconsciemment les pauvres, je ne sais pas ce qu'elles font, à faire des garçons des futurs djihadistes. Mais elles ne le savent pas, pas toutes, évidemment.
Tous certains ne le deviennent pas, Tahar Benjamin.
Comment ?
Tous ne le deviendront pas.
Non, bien sûr, évidemment. Mais il y a un tel privilège qu'on donne aux garçons que finalement lui s'autorise et se permet de se conduire comme un macho, déjà vis-à-vis des femmes, et en même temps un héros qui va libérer la nation musulmane. Donc c'est quand même, il y a une relation psychanalytique assez forte entre la mère et le garçon.
Justement, je vous lis encore. Les tensions qui secouent aujourd'hui le monde musulman s'expliquent par la condition qui est faite aux femmes. Tu as raison, là tu parlais à votre fille, tu as raison de le dire comme cela. Tout tourne autour du corps de la femme. Au fond, c'est un problème de sexualité non résolu.
Absolument. Vous voyez par exemple l'histoire du burkini cet été. C'est quoi ? C'est la femme, évidemment, qui se baigne, la musulmane qui se baigne. D'abord, j'ai vu ça au Maroc, les femmes se baignent tout habillées, ce qui est quand même... C'est quelque chose d'assez pathétique, parce que l'homme, il est en maillot, et la femme, elle se mène avec toutes ses habits, et c'est pathétique. Bon, aujourd'hui, cette année... le burkini. Bon, alors à mon avis, l'homme au fond ne veut pas qu'elle se baigne. Elle veut même pas sortir. Elle veut pas jouir de son corps. Elle veut pas le montrer. Elle veut pas non plus l'exhiber avec toutes les autres. Mais cette relation à la femme est assez pathologique parce que finalement, ça vient soit d'une grande frustration sexuelle, soit d'une éducation où on lui a dit que il faut se méfier de la femme, il faut se méfier du corps de la femme. Et c'est vrai que dans le Coran, il y a un verset qui est souvent invoqué par certains islamistes et qui dit « Méfiez-vous de la femme qui est capable de toutes les nuisances ». C'est un verset dans la sourate Joseph et qui malheureusement à l'époque avait un sens, mais aujourd'hui on ne peut pas taxer la femme de toutes les capacités d'une nuisance, de se méfier d'elle, etc., parce qu'elle est devenue un être libre, un individu libre comme les hommes. Or, on n'est pas encore arrivé dans le monde arabo-musulman à que l'individu soit reconnu, à ce que l'individu et la personne soient émerge et qu'elle soit reconnue comme une liberté totale.
Une question, Tahar Benjelloun, qui n'est pas dans votre livre, mais que je vous pose quand on appelle les musulmans à rester discrets. Vous faisiez l'instant référence à l'affaire du burkini. Oui. Quand vous entendez Jean-Pierre Chevènement, soutenu d'ailleurs par Manuel Valls, les musulmans, les appeler à rester discrets, vous réagissez comment ?
Je suis tout à fait de son avis parce que, enfin, discret, ça veut dire qu'il ne faut pas finalement perturber l'ordre public. Autrement dit, quand on veut faire prier dans la rue, c'est une sorte de provocation. Et puis c'est dans la rue, c'est sale, on ne prie pas, on ne devrait pas prier dans la rue. Et il faut, c'est-à-dire, à mon avis, il faut tenir compte de la situation générale dans laquelle nous vivons et que les musulmans eux-mêmes parlent à ceux qui veulent faire du bruit, à ceux qui veulent justement montrer leur biceps. Je veux dire, soyez un peu plus discret, c'est-à-dire, vous croyez en Dieu, c'est formidable. Alors, priez chez vous, c'est une question privée, nous sommes dans un pays laïque, on n'est pas là pour exhiber nos croyances. La croyance est une affaire strictement personnelle, ce qui se passe dans la mosquée, dans la synagogue ou dans l'église, et ne se passe pas dans la rue. La rue, c'est fait pour l'espace public, il est fait pour tout le monde, pas uniquement pour ceux qui croient.
Vous questionnez également dans ce livre le terrorisme expliqué à nos enfants, une faillite du modèle ou en tout cas des valeurs de l'Occident, matérialiste, usine à frustration.
Ben, ça parce que, en fait, le discours des djihadistes, c'est que l'Occident a été l'apanage du matérialisme absolu qui a mis hors du cadre les valeurs humanistes, les valeurs de spiritualité, etc. C'est-à-dire qu'ils opposent une grande spiritualité, un grand esprit qui serait dans l'au-delà, dans le paradis, et que ici ils ont raté leur vie. Alors pourquoi ? Parce que le matérialisme et l'individualisme, chacun pour soi, ont fait que les valeurs de l'esprit ont été abandonnées. C'est un discours qui fonctionne parce que ceux qui ratent leur vie en France ou en Belgique, peu importe, pour mille raisons, pas forcément religieuses, eh bien, ceux-là, on leur dit maintenant, vous allez réussir votre mort. En fait, l'Occident n'a pas su vous accueillir. Eh bien, l'islam, cet islam-là de djihadiste, il va vous donner l'occasion de vous racheter. Et en fait, en vous vengeant de cet Occident qui vous a mal reçu, vous allez au paradis. Et vous allez enfin réussir quelque chose dans votre vie. Vous allez réussir votre mort qui va être l'apothéose, en fait, de votre combat.
Et vous aurez une cause, une utopie. Vous aurez une cause. Pourquoi est-ce que vous l'avez écrit fondamentalement, ce livre, Tahar Benjelloun ?
J'étais tellement...
Affronter la peur, c'est ça ?
Tellement choqué par ce qui s'est passé déjà avec Charlie en janvier et puis en novembre, le 13 novembre, et que j'ai, comme tout le monde, des enfants, et je vois, moi-même, je vois cette peur se répandre, et l'amalgame qui se fait entre une religion et la terreur, et que j'ai voulu réfléchir sur l'origine de cette terreur, et j'ai voulu en même temps donner aux enfants la possibilité de comprendre. Alors j'ai pensé justement, après le Bataclan, à quelqu'un que je connais qui a perdu une fille dans ce malheureux cancer, et je me suis dit, comment il va expliquer à son petit frère qui a 11 ans, comment va-t-il lui expliquer la disparition de sa sœur qui est allée uniquement écouter de la musique. Et ça, comment il va, par quel bout va prendre cette nouvelle horrible, comment, et c'est ça, c'est pour cela que j'ai écrit ce livre.
Merci Tahar Benjelloun d'être venu ce matin. Votre nouvel essai aux éditions du Seuil, Le terrorisme expliqué à nos enfants, paraît jeudi. Et puis je rappelle votre dernier roman, Le mariage de plaisir, qui est paru lui en début d'année chez Gallimard.
Merci beaucoup.